Nous sommes le jeudi 12 février, il est 21h et des poussières sur Radio Canus 102.2. Bienvenue dans le nerf de la game. Le nerf de la game, l'émission qui aborde le jeu vidéo par sa face alternative chaque semaine ou presque. Vous retrouverez ici un cocktail d'actu sur les rouages de l'industrie du jeu vidéo et sur les titres qui attisent la curiosité, surtout du côté indépendant du paysage vidéoludique. Bonsoir Romain.
Salut Xavier.
Comment vas-tu ?
J'ai connu mieux, mais on va passer une bonne soirée.
Oui, bah, oui, c'est vrai. Alors, je passe sur le fait que pour garder ta moyenne de 6 heures de stream par semaine, t'oublies avec des grands guillemets de couper ton stream et de laisser la scène de fin pendant une heure. Mais sinon, je vois que ça va très bien.
C'est ça, exactement. Mais on n'est pas tout seul ce soir, garde du temps pour les autres.
C'est vrai, bonsoir Bettina.
Salut.
Écoute, je sais que tu n'as pas voulu couvrir la cérémonie des Game Awards la dernière fois, mais ici, ce soir c'est le State of Play. À 23h.
Ah, okay.
Donc, merci pour ton implication.
Ouais, bien sûr.
Voilà, ça va sinon ?
Ouais. Je regarderai un replay plus tard.
C'est ça. Et évidemment, tu nous feras un rapport complet, en direct, sur les DLC de Ghost of Yote, ce genre de choses. Mm-hmm. Non, t'es pas...
Ouais, c'est moi. Hein,
voilà. Ce soir, on reçoit Maxime de Redlock Studio. Salut.
Salut.
Déjà, merci d'être venu dans cette... dans cet antre rouge,
n'est-ce pas,
et merci. Légèrement tagué.
Merci pour l'invitation.
Redlock Studio qui a annoncé récemment la sortie prochaine d'un jeu qui s'appelle Hypnos et qui va entre autres parler de ce jeu et d'autres choses. Mais avant de commencer à entrer dans le vif du sujet, on voulait rappeler que les salariés d'Ubisoft sont en grève ce mardi 10 février jusqu'à
depuis mardi jusqu'à
normalement aujourd'hui et qu'il est question de renouveler cette grève. Cette grève qui a eu lieu dans plusieurs studios en France et en Europe pour protester contre un plan d'économie, des suppressions de postes et la fin quasi totale du télétravail. Près de 1200 grévistes sur 3800 salariés français selon le syndicat Solidaire, Solidaire Info et...
STJV, non ?
Et STJV, ouais. Oui. C'est parce que je l'avais lu chez Solidaire, le communiqué, et qui ont été mobilisés notamment à Montpellier, à Bordeaux, à Annecy, à Lyon, à Paris-Saint-Mandé et aussi à Milan en Italie. Et d'ailleurs, on vous conseille les stickers qui ont été faits à cette occasion. Évidemment, ici, au nerf de la game, on soutient ce mouvement et on en reparlera bientôt. Mais d'abord, on va vous donner des nouvelles des gens qui fabriquent des jeux vidéo sur Lyon et ses alentours. Bettina, c'est à toi.
Merci. Je voulais vous parler de Rollbot qui est sorti sur Steam le 28 novembre, qui est développé par Tsukoni, un solo dev, Adrien Constant de son vrai nom, pour les Lyonnais et Lyonnaises qui le connaissent peut-être. C'est un jeu de parcours et de course contre la montre. On incarne un robot de combat sphérique très rapide en troisième personne dans un univers futuriste. On devra éliminer des obstacles, détruire des ennemis, glisser le long des murs, décoller dans les airs et aller toujours plus vite. C'est en fait un jeu exigeant pour les amateuristes de défis où vos réflexes et votre réactivité sont mis à l'épreuve. C'est pas du tout pour moi, évidemment. Il y a apparemment 30 niveaux, il y a aussi un éditeur de niveaux pour créer ses propres challenges et comme ça on peut les partager en ligne et relever les défis de la communauté. Il y a une démo gratuite sur Steam et il coûte 7,79€.
Tu peux rappeler juste le nom du jeu s'il te plaît ?
Rollbot. R-O-2-L-B-O-T.
Très bien. Jetterai un œil.
Oui.
Ça me plaît bien ce genre de truc où tu jettes la mettre par la fenêtre.
Ouais, voilà.
Ça me plaît pas mal.
C'est exactement ce qu'il me faut pas. Et le deuxième dont je voulais vous parler, c'est Chrono Quartz, en un mot, sorti sur Steam le 2 octobre, développé par un solo dev. Je ne connais pas son nom, car je ne le connais pas encore, personnellement, puisqu'apparemment il est lyonnais. C'est un jeu d'aventure en pixel art, rétro jusque dans un bande-son en fait. Son concept repose sur un système de boucles temporelles qui se réinitialise après un nombre limité de traversées de salles, à savoir 10 seulement. Donc au bout de 10, hop, on repart du début. Au travers des tentatives, on devra utiliser au mieux les connaissances que l'on acquiert, des codes pour ouvrir des cadenas, opposition des objets ou des passages secrets pour progresser. On pourra alors trouver des nouveaux secteur et atteindre ses objectifs pour à terme sauver le temps du danger qui pèse sur lui. Certains casse-têtes croisés demanderont même d'être résolus au fil de plusieurs boucles, ce qui nécessitera de planifier ses actions. Il y a aussi une démo gratuite sur Steam et il coûte 9,75€.
Ouais, déjà presque 400 reviews, c'est pas ouais. En 98% de positif. Je connaissais pas, du coup je découvre en même temps. Mais... C'est pas mal. Rien à voir avec le Quartz d'Ubisoft, du coup, pour faire le lien avec le...
Je pense pas, non. Ah, bon.
C'est de l'acharnement, je trouve.
Moi, je suis le mouvement. Moi.
C'est ça. Merci, Bettina. Maxime ?
Oui.
Ça va ?
Bien sûr. Oui, très bien.
Donc, je vais passer la question traditionnelle de « qu'est-ce que tu fous là ?» C'est plutôt, donc, est-ce que tu peux, pour ceux qui ne connaîtraient pas Redlock ou vos différents jeux, vos deux jeux qui sont déjà sortis, est-ce que tu pourrais un peu présenter le studio ?
Bien sûr. On s'est formé en 2016. Et donc, à la base, avec des jeunes sortant d'études, naïfs et pleins d'enthousiasme, d'entrain et d'illusions. et donc, on s'est dit que la bonne idée, c'était de faire un jeu d'action-aventure avec des éléments RPG dans un monde semi-ouvert, comme premier jeu, évidemment. Et donc, on a fait un Kickstarter et on a fini, bon an, mal an, par réussir à aller au bout de ce projet, donc Shattered Tale of the Forgotten King. Ça nous a pris la bagatelle de 5 ans, je crois.
Oui, il est sorti en 2021,
oui, exactement. Et on a encore travaillé un peu dessus à partir de là. Et donc ensuite, c'était l'année dernière, on a sorti Black Shard, qui est un pas de côté intégral, puisqu'on est dans un walking sim à la première personne, où on explore donc des environnements... brutaliste et une sorte de vaste méga structure impossible qui s'appelle le labyrinthe et dans lequel on rencontre des entités issues de la mythologie interne du studio et on va dire d'auteurs comme Lovecraft, Clark Ashton Smith et Chambers aussi. Voilà.
J'avais présenté Black Shard lors de l'émission du 13 novembre. Je vous encourage à écouter les replays si vous n'étiez pas là.
Des replays généreusement hébergés sur Precept 5.
Oh, t'as vu ce placement de produit incroyable.
Ouais, c'est...
On n'a toujours pas dit trois mots très particuliers. Mais ça devrait arriver dans pas si longtemps. Ça devrait arriver dans pas si longtemps. La première fois qu'on s'est croisés, c'était pour jouer à une version de démo de Shattered.
Nom de Zeus.
Et c'était une partie où je m'excuse encore parce que j'avais cassé le jeu.
Comme à chaque fois.
Mais t'as fini de casser les jeux des développeurs français.
J'avais cassé le jeu.
Big up aux développeurs de Dolos.
Oui, aussi, oui, Dolos.
Dont il a cassé le matos également.
C'est tout pété. Oui, c'était une partie en 2D où voilà, j'avais skip un truc. Bon, j'étais pas censé skip. Bon,
bref, c'était toi.
Mais si t'arrives à casser le jeu, c'est qu'il est cassable. Tu
oui,
vois,
oui. Donc, bon. C'est à ça que ça sert les playtests.
Exactement.
Je voulais savoir si justement avant parce que ça a été une longue aventure Shattered, voilà, tu as dit entre voilà le début, le Kickstarter, le développement, la sortie entre guillemets quasiment en plein Covid, etc.
C'est vrai.
Voilà, ça a été une sacrée aventure. Est-ce que avant de faire Black Shard, est-ce que vous aviez fait une sorte de post-mortem, essayé de pour avoir justement toute l'expérience que vous avez accumuler les erreurs, les choses à faire, les choses bien, pas
c'est
bien, etc.
C'est exactement ce qu'on a fait. Ouais. Tous les membres de l'équipe qui avaient participé à Shattered, en tout cas qui sont restés vraiment dans la core team, ont rédigé un post-mortem personnel et après on les a effectivement mis en commun. Mmh. Et on est reparti sur un projet juste derrière, qui est, on va dire, le précurseur d'Hypnos. Mais il en est tellement éloigné d'un point de vue mécanique que ça fait vraiment des itérations extrêmement différentes. Sur Hypnos, en fait, Mais c'est aussi lié à des affaires de, on va dire...
Donc Hypnose qui est le nouveau projet.
Qui est le nouveau, donc, ouais.
En cours de développement.
En cours de développement. Je pense qu'il y a eu 3 ou 4 itérations différentes. Donc après, il y a des choses qu'on a gardées, il y a des choses qu'on a mis de côté, en se disant que c'était encore un petit peu trop ambitieux, on va dire, et que ça aurait plus sa place ultérieurement dans des projets suivants. On est un peu reparti dans la logique de dire on va construire des fondations le plus solides possible, et ensuite, de jeu en jeu, on va itérer, on va raffiner et on va ajouter un petit peu des savoir-faire. Quoi.
C'est à partir donc de ces retours-là que est venue l'idée de faire Black Shard, notamment sur peut-être dans le sens où peut-être faire quelque chose de pas aussi ambitieux que ce que vous aviez prévu pour Shattern.
Pas exactement. C'est-à-dire que Black Shard a commencé vraiment sur le côté. C'était un projet personnel. Je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire du level design, de l'architecture. Et au début, c'était même un projet de musée virtuel, en fait, Black Shard.
Mmh. Ah, c'était pas censé être un jeu, en fait.
Pas du tout. Okay. Pas du tout. C'était plutôt une expérience interactive que j'avais pour ambition d'aller proposer dans des musées ou dans des choses comme ça. Et puis, bah, le naturel revient à galop, j'imagine. Et donc, au bout d'un moment, on finit par regamifier un petit peu.
Et si on mettait du level design, et si voilà. On mettait du game design dedans.
C'est un peu ça. Après, voilà. Il a gardé quand même cet aspect un peu musée rituel.
Sur certaines scènes, sur ouais. Certaines. Ouais. Sur certaines surtout au début, ouais.
Ouais, tout à fait. Le côté, oui, ça s'en émancipe au fur et à mesure, mais il y avait un petit peu ce truc de dire on est quand même dans un espace. Dans un espace impossible, alien vraiment par nature, et le fait qu'il y ait tout un tas d'installations un petit peu artistiques au milieu de ça, ça rajoute quand même un petit peu une couche aussi mystérieuse et fantasmagorique qui, moi, me tenait à cœur.
Et est-ce que Black Shard, c'était l'occasion d'expérimenter visuellement des choses pour Hypnose après ?
Complètement.
Okay.
Et puis pour, même d'un point de vue technique, apprendre un certain nombre de choses. Donc il y avait ça, effectivement, et puis c'était aussi un projet qui n'a rejoint, on va dire, l'étiquette Redlock Studio que tardivement, donc j'avais aucune pression de calendrier sur celui-ci. Et c'était un peu l'occasion de tester ça et de dire, tiens, voyons voir, si on n'a pas de rétro-planning, qu'est-ce qui se passe ? Donc voilà.
Le cauchemar de tous les producteurs.
Ouais.
Mais du coup, à ce moment-là, donc, toi tu bossais sur, pas tout seul, vous étiez 3, je sais plus.
Sur Black Shard, au début, j'étais tout seul. Ouais. On avait commencé avec, on était encore assez nombreux sur la première version d'Hypnose, ouais. Qui s'appelait Kadat, du coup.
Okay.
Bon, le lieu n'a pas bougé, hein, donc ça se passe toujours dans les contrées du rêve. Mmh. Et au final, c'est juste que on a légèrement décalé un peu la focale. Mais là, on était plus nombreux là-dessus. Et puis, bah, on a eu des problèmes aussi bêtes que des problèmes de budget.
Ouais.
Et donc, on avait fait une vertical slice. On a du coup arrêté de travailler là-dessus. Et moi, j'ai commencé à faire un peu des salons, etc. Et c'était vraiment pas le bon moment pour faire ça. Donc, assez rapidement, il y a eu un peu quand même cette idée de dire il va quand même pas trop falloir compter sur des éditeurs avec un projet de cette nature. Déjà, et dans le contexte actuel. Donc, en fait, on va essayer de recalibrer la prod pour être sûr de pouvoir aller au bout tout seul.
Ok.
Voilà.
Et du coup, tu faisais les deux en parallèle.
Ouais.
Tu faisais, ouais.
Ouais, ouais, ouais. Et après, quand j'ai atteint, on va dire, un stade un peu critique sur Black Shard, où je me suis dit, bon, là, il faut fignoler l'affaire, quoi. Il faut qu'il y ait d'autres regards qui viennent se poser dessus. Et c'est là que, du coup, le reste de l'équipe m'a rejoint.
Ok, ouais.
Et qu'on finalement on a terminé ça à 4 et c'est devenu un petit peu le cœur de l'équipe, quoi. C'est, on s'est dit après ça n'empêche pas de travailler avec d'autres gens sur des sujets bien spécifiques, mais au final avec quelqu'un au dev, quelqu'un à l'animation, quelqu'un 3D, moi qui fais de la 2D, du level art, du level design, et ensuite une écriture et du GD un petit peu collectif, et ben ça marche bien.
Ouais, ok.
Alors à un moment on parlera de jeux vidéo. Moi, j'ai envie. Mais il y a un truc qui m'a interpellé dans ce que tu disais, c'est que tu parlais de budget. Et en fait, je voulais un peu te demander la relation, j'imagine, un peu comme tous les devs, de amour, haine, nécessité qu'il y a entre les devs et les éditeurs. comment tu as observé, toi, justement, les différentes tendances au niveau des éditeurs sur un moment où les gens allaient fouiller jusque dans les écoles pour savoir s'il y avait des choses qu'ils pouvaient prendre, ouais. Et que là, ils sont beaucoup, beaucoup plus frileux aujourd'hui. Comment tu abordes ça?
Alors, sur les dernières années, dans les grands événements, il y a eu la chute... d'Amplifier, qui a, je pense, traumatisé beaucoup de monde. Et quand on discutait sur les salons, notamment la Games Connection ou des choses comme ça, il y avait vraiment un peu ce côté, non mais là c'est vrai qu'on est tous un peu sur la réserve, on signe rien, mais dans tant de temps ça va aller mieux.
Ouais.
Et une fois que tu as entendu ça, tu vois, 5, 6, 7, 10 fois, tu leur dis, mais en fait vous êtes en psychose collective.
Oui, 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 oui.
Et
en plus, il y avait ce truc de bah, personne signe rien en ce moment, oui. Et du coup, bah, personne ne fait rien. Enfin,
exactement.
Ça bloque
parce que tu fais comme les autres aussi.
Ouais.
Un peu le côté, personne ne veut prendre le risque que les autres ne prennent pas.
Ouais.
C'est ça, tout le monde se regarde un peu en chien de faïence. Et il y a eu aussi ce truc de. J'ai eu des discussions avec des gens assez haut placés dans un certain nombre d'éditeurs. Et il y avait des constats ultra lucides, du genre, oui, on est en train de scier la branche sur laquelle on est assis, ou la concurrence le fait. Et puis après tu dis ok d'accord, mais donc vous faites quoi? Bah on signe pas. Ah, ok,
on signe plus fort, d'accord,
voilà, c'est ça.
Très bien.
Ou alors on a des fois ça, enfin, des fois c'est ça, c'est genre du coup on signe pas, on attend un peu, on signe plus fort effectivement. Ou des fois ça va être oui, la problématique c'est il y a eu trop d'argent balancé dans des projets pour vouloir scale à fond, donc on va essayer de se concentrer un petit peu sur des équipes, des habits. D'accord, c'est super. Et donc vous cherchez quoi? Oh, on cherche à faire x100 en multipliant la taille. D'accord, ok, très bien.
D'accord.
Donc vraiment des fois, et enfin beaucoup même, chez un nombre de gens assez important pour que ça soit marquant, quoi. C'est première partie de la phrase, constat d'une lucidité absolue, virgule. Donc on va continuer comme avant.
Voilà.
Oui, c'est ça.
Bon, bah voilà.
Le en même temps dont on parlait.
Le en même temps dont on parlait. Voilà, exactement.
Ce sont des discussions privées. Romain, fais attention. Fais attention.
Mais du coup, je dirais qu'il y a quand même en train de se passer un truc, parce qu'on voit bien que il y a quand même à la fois, bon, Ubisoft, on en parlait, on va pas tirer sur l'ambulance forcément, mais même Microsoft, hein, il y a beaucoup de canards sans tête, quoi. Et à côté, je vois plein de gens qui sortent de ces structures après y avoir passé des fois 10-15 ans et qui ont envie de fonctionner autrement et de monter un petit peu des autre chose, hein. Ça peut être des collectifs, des labels, des distributeurs qui progressivement injectent à des étapes un peu diverses, parce que c'est vrai qu'il y a aussi ce truc là qui s'est démocratisé chez les éditeurs, c'est si t'as pas déjà financé finalement la Vertical Slice et la moitié du projet, on discute pas en fait.
Oui.
Sauf que si
ils prennent moins de risques qu'avant, disant
qu'ils en prennent plus du tout. Même. Ça, j'ai
envie de dire. Est-ce que tu peux m'amener un truc sur un plateau?
Exactement.
Et me dire combien je vais en vendre.
Voilà. Exactement. Ouais, c'est ça. Voilà. Et du coup, ça donne des trucs un petit peu.
Et on te laissera 10%.
Oui. C'est vrai. Non, ça a évolué. Maintenant, c'est vrai que ils sont moins rapaces sur les IP, par exemple.
Oui.
Et qu'il y a plus. Bon, mais en même temps, c'est un peu normal quand on a tout dérisqué.
Juste pour ceux qui sauraient pas, les IP, donc ce sont les licences, ce sont les
franchises, propriétés, quoi,
les franchises, voilà.
Propriétés intellectuelles.
Voilà, pour ceux qui sauraient pas.
Oui, pardon.
Mais n'avez pas de soucis.
Et du coup, j'ai organisé un peu.
Et du coup, je reviens sur Black Shard qui est. Identifié comme étant édité par, en partie en tout cas, par Plugin Digital.
Distribué du coup,
ouais. Ok. D'accord, okay. C'est ça le rapport que vous avez avec eux.
Ouais, ouais, tout à fait. Et on a, en fait, on avait eu ce rapport-là avec eux sur les. Voyons voir. Sur toutes les plateformes PC hors Steam.
Ok.
Du coup, parce qu'on était allé en Early Access à ce moment-là sans eux. Mmh. Et ils avaient fait un travail assez formidable, en fait, là-dessus, avec tout un tas d'opportunités très intéressantes pour nous. Derrière, ils ont récupéré les versions console de Shattered qui étaient entre les mains de gens peu recommandables, qui avaient fait un boulot déplorable à la fois sur le portage et sur la distribution.
Okay.
Et du coup, sur Black Shard, ça semblait relativement naturel d'y aller avec eux. Voilà, on va dire que c'est une relation qui se construit un petit peu sur le long terme, mais c'est déjà plus facile. C'est un autre mode.
Oui, la distribution plutôt que de l'édition. Enfin que...
C'est ça.
Okay. C'est déjà pas pareil. Entre ce qu'on demande à un éditeur, où ça va être quand même une partie du financement, quand bien même, ou la distribution qui va être plutôt une relation de prestation qui est différente.
Et puis qui correspond à ce que tu disais dans le côté amène-moi un jeu sur un plateau et je t'amène moins, quelque chose, je t'amène une prestation par rapport à ça. Quoi.
Mais au moins, ça, c'est clair quoi, dès le début.
Ouais, bien sûr.
Voilà, moi, c'est vrai qu'on est nombreux dans les studios, je pense, à avoir envie que les éditeurs refassent un vrai travail d'édition. Et nous aide aussi à avancer, parce que nous on est, enfin en tout cas la plupart des gens que j'ai rencontrés, quand bien même on aurait des visions créatives très fortes, on a envie d'avoir des retours, on a envie d'avoir des producteurs compétents, des gens qui connaissent le marché, et on est capable de dire mais en fait on peut s'adapter, on est capable d'entendre à la fois les conseils, les critiques, on en veut de ça,
Donc, oui, parce que vous n'avez pas forcément le regard sur tout, donc vous avez besoin d'un peu d'un point de vue qui a plus de recul. Ouais.
Et puis tu as le nez dans ton jeu, donc t'es pas le meilleur critique de ton jeu,
c'est
clairement.
Ça. Donc on n'a pas forcément. Enfin, même quand on nous dit arriver avec un truc déjà entièrement câblé, est-ce que c'est si intéressant que ça en fait ? Sauf si effectivement le tri qui est fait par les éditeurs, ça va être de dire à un moment donné, j'aurai la licorne absolue en fait, et j'aurai rien à faire.
Ouais.
Donc après, on est content d'avoir de temps en temps des éditeurs comme Kepler qui font confiance à des gens, etc. Ça peut faire des success stories, mais c'est rarissime.
Après, Kepler fonctionne un petit peu différemment parce qu'il a été fondé par notamment par des studios aussi. Enfin, et il intègre d'ailleurs les studios au fur et à mesure. Il a intégré Sandfall à l'ensemble. Enfin, c'est un fonctionnement un petit peu différent aussi, mais on le voit aussi avec les différentes éditeurs fondés par des studios qui ont explosé. On parlait d'Outer Sloth.
Oui.
On parle de...
Alors, Outer Sloth, c'est un petit peu particulier parce que c'est pas vraiment des éditeurs, non. C'est des mécènes, on va dire.
C'est un peu ça, mais c'est un peu la même logique avec.
Oui, c'est super intéressant.
Tu as Pocket Pair aussi qui se pose ce genre de questions. Enfin, c'est des retours, entre guillemets.
C'est vrai que.
Une certaine activité qui veulent reprendre finalement aux éditeurs un petit peu rapaces qui n'attendent que.
C'est vrai que ces derniers temps, on a pas mal. Enfin, par rapport à un certain discours qu'on peut avoir dans. En tout cas, dans le jeu vidéo, sur le jeu vidéo premium. Hein, là, on parle de jeux vidéo vraiment, en gros, qui s'achètent à l'acte, etc.
Ouais.
On va avoir beaucoup de. On va rechercher le coût. Rechercher le truc qui tape, le truc qu'on dit, ah ouais, soit on va suivre une tendance lourde ou avec un jeu qui a cartonné, on va essayer de suivre une tendance lourde, soit on se dit, avec ça, avec ce pari-là, on va y aller. Et c'est ce que tu disais justement sur le fait de plus prendre de risques, entre guillemets, c'est on recherche vraiment le profit immédiat.
Ce qui, paradoxalement, les amène à prendre des risques complètement inconsidérés. Mm-hmm. Parce que quand on voit certains éditeurs qui sont capables de proposer plusieurs jeux services sur les mêmes plateformes qui sont les leurs. Tu dis mais tu n'as pas compris le concept de jeu service en fait, je pense.
C'est ça.
Ou de dépenser, des fois on voit des budgets à 80 millions sur des jeux où tu dis mais personne ne va vouloir jouer à ça. Le monde le sait.
Mais je comprends pas, iCard ça marche super.
On a dit qu'on n'en parlait pas.
Non mais voilà, mais c'est ça.
Mais surtout des années de développement, parce que c'était la tendance au moment où tu as commencé le développement, donc tu arrives 6 ou 7 ans après la bataille. On en a déjà beaucoup parlé dans cette émission, mais que le temps de jeu en fait est de plus en plus concentré dans des jeux qui sont extrêmement anciens maintenant. Enfin, finalement, les clients que tu cherches toi, en tout cas en tant que, on est sur une petite partie finalement de l'industrie, marché quoi.
C'est ça, il vaut mieux se battre pour l'expérience que pour se battre pour le temps. Entre guillemets que tu veux te donner, vu que le temps il est déjà pris par d'autres choses.
Exactement.
Principalement, oui.
On en discutait avec un ancien collègue aujourd'hui même, justement. Il me disait, mais en fait, des jeux comme Fortnite, à tout prendre, mais j'avais eu l'année dernière un stagiaire de 3e. Je n'en prends quasiment jamais. Là, en l'occurrence, je me suis dit, allez, allons-y. Et donc, la première question, c'est à quoi tu joues et à quoi ça joue tes copains et tout. Et Minecraft.
Ouais.
Fortnite.
Oui.
Roblox.
Oui.
Et Roblox, on dit, on va discuter avec les parents, je pense.
Oui.
Voilà. Mais, et du coup,
il va falloir vraiment qu'on fasse un dossier Roblox complet.
Avec Manu.
Ouais.
Pardon, j'ai rien dit. Pardon.
Mais du coup, il y a eu notamment une journée où je dis, écoute, là, on va tester plein de trucs. Et c'est intuitif. C'est ultra intuitif. Ils savent jouer instantanément, mais ils n'ont aucune idée de ce qui existe, en fait. Et donc, tu te dis, je savais qu'on était déjà dans une niche, mais je ne me rendais pas compte à quel point. C'est assez impressionnant. Et donc, derrière, c'est pas en arrivant et en injectant je ne sais pas combien de centaines de millions pour essayer de faire un truc qui existe déjà et où les gens ont leurs habitudes. Ils ne partiront pas.
Bien sûr.
Ça n'arrivera pas, en fait.
Donc, effectivement. Recentrons cette conversation sur Hypnose, si ça te va.
Bien sûr.
Bettina, est-ce que tu avais vu le trailer ?
Oui, de toute façon, on en avait parlé entre nous.
On a tous vu le trailer.
Oui.
Est-ce que tu peux nous expliquer ?
Alors, déjà, ça, c'est, moi, j'appelle ça même. Moi, j'ai appelé ça le teaser en interne, tu vois.
Ouais.
Oui. Qu'est-ce qu'on peut expliquer ?
On tirait un peu des images de démo technique où en fait on voit que des visuels.
Exactement.
Et...
Alors on avait fait même chose pour Black Shard. La première vidéo, ça n'était que des trucs
que
très
ça.
Abstraits. Et donc c'est quand même en train de devenir un petit peu une marque de fabrique. Voilà. Mais finalement, en fait, en gros, on a pris l'ossature de Black Shard. Donc le côté, il y a du visual novel, il y a des interactions qui transforment le monde progressivement, avec des choix narratifs qui passent plutôt par à quel point est-ce qu'on s'est plongé dans l'exploration pure, parce que moi c'était mon truc, c'est-à-dire j'ai envie de faire des jeux d'exploration. Après, derrière, on peut y faire plein d'autres choses.
Pour mais Black Shark, même... c'est vraiment très exploration, bah, c'est très centré là-dessus.
Exactement. Et j'avais joué à beaucoup de jeux dans des espaces liminaux, notamment, et beaucoup de walking sim, voilà, dans des méga structures de diverses natures. Mais voilà, c'est quand même très souvent des jeux linéaires.
Oui. Oui.
Et je comprends pourquoi.
Oui.
Mais du coup, je regardais aussi un peu les commentaires, je voyais ce qui, moi, pouvait me manquer. Des fois, c'est un peu le fait de dire, mais est-ce qu'on pourrait pas échapper un petit peu à ce
golden path ? C'est vrai qu'il y a un sentiment un peu de contradiction où on te dit c'est de l'exploration, mais par contre, il faut que tu ailles dans le sens qu'on te dit parce que voilà.
C'est vrai que c'est un truc qui m'avait marqué dans Black Shard, lorsque j'y avais joué. C'est que je m'attendais à une construction plutôt classique pour des jeux qu'on appelle des walking sims, c'est-à-dire que ce sont des jeux plutôt narratifs qui sont vus à la première personne et où on va t'amener en fait une histoire où t'auras pas forcément d'action, t'auras peut-être quelques interactions mais t'auras pas forcément d'action claire à faire. Et le but en général c'est de t'amener une histoire et... comme tu le disais, tu comprenais très bien pourquoi c'était en général sur des rails, parce que quand on veut raconter une histoire, on veut plutôt éviter que tu partes partout. Et c'est un truc qui m'avait vraiment marqué dans le jeu Black Shard, c'était que dès le début, c'est mais je suis paumé, mais c'est pas un embranchement scénaristique, c'est juste un embranchement tout court. c'est pas des choses évidentes dans ce type de jeu.
C'est ça. Je te cache pas que c'était un peu le pari aussi. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire un walking sim non linéaire qui n'est pas drivé particulièrement par son scénario, même si, ou au contraire, on va avoir une narration un petit peu plus éclatée, même si on a quand même une introduction et qu'à la fin il y a un petit effet d'entonnoir et qu'on rebascule sur des rails sur le tout dernier segment, mais c'est vraiment la fin, quoi.
Je transparent, j'ai pas tout compris du scénar.
Ce n'est pas grave. Je vais pardonner. Mais
pour pas dire que j'ai rien compris.
Mais il y a des gens qui ont bien compris. Mais j'ai bien ont trop compris, même peut-être.
Ah oui.
Mais
j'ai bien aimé.
Il y a des fan sites de complotistes.
J'ai eu le malheur d'aller voir sur Reddit. J'en suis encore tout est Bobby. Mais voilà. Mais ça fait aussi un peu partie de l'esprit JDR, en fait. Voilà, qui est historiquement celui de Redlock.
Donc jeu de rôle papier sur table, etc.
Ouais.
Ok.
Une façon de raconter l'histoire en fait très très ouverte aussi.
C'est ça.
Oui.
Et qui réagit à ce que vont faire les personnes plutôt.
Alors moi il y a des petits trucs que j'aime bien faire, c'est le ping pong narratif, c'est-à-dire d'aller voir un petit peu ce qui se passe dans la communauté et de regarder un petit peu les théories qui sont faites. Et parfois il y a des théories qui sont même encore meilleur que ce qu'on avait prévu nous. Donc là, on a deux possibilités. C'est soit on se dit, alors il y a des easter eggs à caler parce que ça va être, à un moment donné, ça va être merveilleux et il y aura un petit effet boule de neige. Et la deuxième chose, c'est de dire, mais il faut surtout pas donner la réponse. En
oui,
fait,
oui.
Parce que il y a
oui. D'accord.
En gros, moi je travaille. Enfin, là maintenant, je travaille aussi avec mon frère, du coup. Que je suis allé chercher sur le scénario parce qu'on avait écrit des JDR quand on était jeune et ça s'était toujours très bien passé. Et donc je lui ai dit viens mettre de la structure un petit peu. Et donc c'est un peu son truc, quoi, c'est de dire on va structurer tout ça. Et en même temps moi j'ai ce truc un peu lynchéen, je dirais, où il faut de l'espace pour rêver, en fait. Et donc si on arrive à trouver un peu cet équilibre, c'est cool, ça se passe bien généralement. Et voilà.
Ça me rappelle des logiques assez de ce qu'on appelle les ARG.
Oui.
Donc les Alternate Reality Game, où en gros on va te poser des éléments à droite à gauche dans un univers et les gens en fait vont faire les liens eux-mêmes.
Et voir aller chercher des infos en dehors de la structure.
Voilà. Ouais, ouais. Voir dans le monde aller chercher des choses géolocalisées, etc.
Et les gens l'ont fait. Ils ont déjà commencé.
J'avais beaucoup suivi ça pour un jeu qui s'appelle Oxenfree notamment.
Ouais, bien sûr.
Et j'adorais ce jeu et j'avais surtout aimé, en fait, entre guillemets, pour moi c'était une sorte de promotion du jeu qui a un peu dépassé, qui est devenu l'univers du jeu, quoi. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant.
C'est là où c'est le plus intéressant, c'est quand on raconte des histoires, mais qu'on arrive à le faire sans avoir à tout expliciter, que c'est suffisamment bien écrit ou bien distillé pour que les personnes comprennent sans qu'on ait besoin de dire « Hey, en fait, t'as vu ?» Parce que ça, en fait, ça voulait dire ça. Et « Hein, t'as vu ?» Hein, c'est, ouais. C'était ça, en fait. Mmh. Et même d'un point de vue de la personne qui va... Ça marche pour n'importe quoi, hein, pour un livre, pour un film, pour une série,
la satisfaction personnelle d'avoir...
Voilà. De se dire « Ok. »
Fait le chemin soi-même, en fait.
Exactement. J'ai compris. En fait, c'était ça. Et il n'y a personne qui m'a dit, qui m'a donné la réponse.
Il y a beaucoup du cinéma de Nolan qui est basé là-dessus, où tu es censé faire les points toi-même. Mmh. D'ailleurs, plus ça va et plus explicite, c'est dommage, mais c'est vrai qu'il est un peu parti là-dessus.
On parlera pas de Tenet ce soir.
J'ai tout compris Tenet, moi.
Mais c'est pas le souci.
En même temps, moi, j'avais compris l'intrigue dès le début du film, donc oui.
Mais du coup, il y a effectivement un truc qui est très intéressant, c'est justement cette emphase sur la narration environnementale aussi. Enfin, ouais. Bien sûr, ouais. Que tu parlais des environnements, tu parlais de ces environnements impossibles, tellement aliens que. Qu'ils en deviennent effectivement incompréhensibles aussi à première vue, qui donne le côté, enfin voilà, qui te donne envie de te plonger dedans pour essayer de comprendre aussi. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'esthétique en tout cas, dans le Black Shard, mais aussi dans Hypnos.
Et je rebondis, avant que tu répondes Maxime, je rebondis sur ce que dit Romain, puisque justement je voulais te faire parler de ça entre autres, parce que tu endosses notamment la casquette de directeur créatif. Parmi d'autres casquettes, j'imagine. Mmh. Et du coup, voilà, je voulais que tu nous parles aussi justement de ta démarche créative et de tout ça. Et du coup, ça rebondit sur ce que disait Romain.
Oui. Alors, si tu peux.
Dans l'ordre, vas-y. Fais dans l'ordre que tu veux.
Mais en fait, globalement, moi, mon obsession, c'est les symboles.
Okay.
De manière générale. Et les motifs, donc ça peut être des motifs narratifs, des motifs visuels. Et j'ai toujours eu tendance à créer des trucs de manière assez, on va dire, assez irréfléchie, assez organique, et à y distiller tout un tas de choses, de motifs qui m'obsédaient à tel ou tel moment, ou que je voyais être récurrents, et je me suis dit, bah, on y va, on n'essaye pas de sortir de ce tic d'écriture ou de ce tic graphique, et on va voir où il nous mène. Et au fur et à mesure, soi-même on finit par rétro-justifier un certain nombre de choses, mais c'est aussi très amusant parce que des fois c'est les autres, et c'est là que ça commence à taper dans l'ARG, dans ce truc là c'est hey, mais dans ce dessin t'as mis ça et puis il est là aussi, est-ce que ça veut dire que, et là tu fais oh là 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 là, on va commencer à rigoler. Et donc c'est un peu ça mon truc, c'est de co-construire des récits et des univers avec à la fois les collègues et puis les spectateurs, et de dire, en fait, tout ça crée une espèce d'ambiance générale de canevas et de mythologie étendue. Et ça, c'est un peu synthétisé via les extraits des chroniques du labyrinthe, du coup, qui sont dans Black Shard, mais qui sont aussi dans Hypnos, et qui étaient déjà, en fait, dans Shattered. Et c'était un peu le truc de dire, est-ce que quelqu'un, à un moment donné, va prononcer la phrase, c'est... Mais du coup, est-ce qu'on peut les acheter, les chroniques du labyrinthe? Nulle part, mon garçon. Mais voilà, c'est d'arriver à commencer à faire sentir que le monde est plus vaste que déjà ce qu'on est en train d'expérimenter, mais que rien qu'en allant au bout de l'exploration, il y aura des choses à faire. Mais après, on gagne aussi en assurance, on gagne un peu en maturité et en technique. Donc, il y avait un certain nombre d'endroits où dans Shattered, on disait « Ah là, c'est super !» Mais en fait, il n'y a pas de récompense au bout.
Ouais.
Donc, notamment pour Black Shard, on a beaucoup travaillé avec la communauté et des playtesteurs fous furieux que nous surnommons affectueusement les archivistes, et qui adorent mettre de grands coups de tête dans les murs et aller un peu partout et faire les chèvres. Et en fait, bah, soit on se dit ok, là en fait c'est vraiment pas prévu, il faut pas qu'on puisse y aller, c'est pas cool. Et là c'est du génie. Bah, du coup on va l'habiller pour de vrai et puis on va aller au bout du truc.
Ouais, trop bien.
C'était vraiment très chouette. Là on est en train de faire la même chose pour Hypnos. C'est une partie du travail qui commence là en ce moment. Et donc voilà.
Et du coup c'est... Enfin, quelque chose que finalement qui transparaît depuis le début de la discussion, mais qui pour l'instant n'a pas encore été, j'ai envie de dire, mocalisé. Ouais. C'est un univers qui se répond. Donc, ce sont des univers en tout cas qui sont peut-être pas identiques, communs, etc., mais qui ont quand même quelque chose de commun.
Oui, ça se tous les jeux qu'on fait pour l'instant se déroulent dans le même méta-univers, on va dire. Et la question, c'est de savoir s'ils sont chronologiques, simultanés, parallèles, mais c'est un peu le jeu. Voilà. Et Black Shard était, enfin, thématiquement était censé arriver plus tard. Pourquoi est-ce qu'il est sorti à ce moment-là? Je ne sais pas. C'est, on n'est pas, voilà. J'aime bien aussi des fois être un peu à la merci de la manière dont les choses se
déroulent.
Les aléas. Ouais,
le flow,
ouais. Ouais.
C'est ça. Et en fait, ça crée un chouette canevas. C'est des éléments narratifs qu'on pensait déployer plus tard. Finalement, ils arrivent maintenant et ils permettent de reconstruire tout un tas de trucs par-dessus. Et les gens, enfin, les gens ont déjà fait le lien. Il y a des gens qui reconnaissent les personnages, les motifs, les thèmes déjà sur Shattered et qui ont déjà commencé à les spotter dans Hypnos. Mais c'est ça. En gros, l'idée, c'est de dire, au fur et à mesure, on va déployer une mythologie, créer des personnages, les faire évoluer. Et tout ça devrait être assez circulaire.
Après, ça pourrait être hyper intéressant justement de jamais totalement répondre, bah, comme ce que tu disais plus tôt, et de laisser les gens faire leur propre théorie, un peu comme sur tous les différents opus des Zelda qui en fait ont des choses qui se répondent, des choses similaires. On ne sait pas si c'est des timelines alternatives, on ne sait pas si c'est si ça se passe avant, après.
Bah, Nintendo avait fait une sorte de timeline, mais elle n'est même pas complète, elle n'est pas linéaire en elle-même.
Ils ont fait une timeline avec trois trucs alternatifs.
Voilà, c'est ça. C'est pas comme
si c'était une voie directe. Les fans ont dit, mais vous êtes nuls, c'est pas la vraie.
Exactement.
Et j'ai adoré ça.
Oui, c'était
trop bien. C'était trop bien.
Et du coup, bah, laissons les gens le faire eux-mêmes. Et ouais.
C'est bien parce que tout à l'heure tu parlais un peu de chronologie, notamment entre Shattered et puis Black Shard. Un truc qui m'avait marqué notamment dans Black Shard, c'était l'immensité, pas uniquement
des espaces,
des couloirs, etc., mais aussi l'immensité entre guillemets temporelle qui était sous-entendue dans beaucoup de choses. C'est des trucs qui sont, enfin, t'es sur une sorte d'éternité en fait, et j'avais bien aimé ça parce que c'est, je trouve que c'est quelque chose sur lequel je m'étais beaucoup moins concentré quand j'avais joué à Shattered, parce que Shattered, bah, c'est un jeu où tu te fais tabasser. Tout simplement. Et donc le côté, ouais. Bah oui, alors
à l'éternité quand tu es mort, bon, au bout d'un moment, ouais, ça marche moins bien.
Disons qu'il y a un truc, c'est que voilà, il y a peut-être beaucoup plus de lore sur, à côté duquel je suis passé dans Shattered, parce que j'étais sur des, alors ce passage-là, il y a peut-être un truc qui a l'air sympa là, mais globalement je pourrais être crevé, donc c'est on vrai. Va faire ça. Et ce qui était beaucoup moins le cas sur et beaucoup moins frustrant donc dans Black Shard.
Ouais, ouais, bah, y avait, bon, alors ça peut être un sujet en soi, mais il y avait un peu ce truc de l'accessibilité, justement, c'est de dire, est-ce qu'on a envie d'aller jusque dans la formule vraiment FromSoft, où finalement il y a en tout cas à expérimenter en tant que joueur, il faut quand même y aller, quoi. Il faut se faire violence pour aller au bout du truc. Ça n'empêche pas que derrière on peut récupérer du lore en ligne de plein de gens, mais soi-même priver une partie des gens du voyage pour cause de Get Good, quoi. On s'est dit, c'est peut-être, de toute façon, ça nécessite une solidité mécanique qui est déjà hors de portée, mais donc on va pas partir là-dessus, et on va vraiment essayer de faire l'inverse, quoi. Si on va à l'épure la plus totale, et on en revient un petit peu à la grande question, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut avoir suffisamment confiance en notre récit et en notre level design, parce que ça n'est presque que ça, et puis derrière la rythmique visuelle qui était vraiment un sujet essentiel. Est-ce que ça suffit? Et c'est des discussions qu'on a eues beaucoup avec les musiciens aussi, avec Alt. Et au bout d'un moment, on y va en fait. Et on s'est beaucoup nourri mutuellement de ce qu'on faisait. C'est-à-dire, eux m'envoyaient de la musique, ça m'inspirait des espaces et vice versa. Et donc, au bout d'un moment, quand tout ça devient une construction un peu collective qui part d'un truc personnel, mais où il y a une communauté qui va tester des chemins, en créer de nouveaux. En parallèle, nous, on les prend très au sérieux et puis on y va avec la musique, le visuel. Au bout d'un moment, ça finit par cliquer, quoi.
Oui, et puis tout devient cohérent, du coup.
C'est ça.
Ouais. Et du coup, ça m'oblige à poser la question que je gardais depuis le début. comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Comment est-ce que comment ça a cliqué, tout simplement, artistiquement, avec Alt et Alt 9000?
Alors, déjà, il faut quand même rendre aussi à César, mais ce qui lui appartient, la vidéo de Alt, qui s'appelle Les Architectes de l'Impossible.
Ok, je vois très bien laquelle c'est.
Voilà, c'est, je pense.
Regardez-là.
Juste, il faudrait rappeler qui est Alt.
Alt 236.
Non, mais c'est vrai.
Oui,
c'est genre, c'est un pote et tout ça.
Non, mais. c'est un artiste qui a plusieurs formats musicaux. Effectivement, c'était un YouTuber également, donc il crée des vidéos
Il explore des imaginaires.
C'est une très bonne façon de le dire, complètement.
Ouais.
C'est une bonne façon de le dire, en tout cas, dans des vidéos qui durent en général 3h50.
Ouais.
Et qui sont extrêmement intéressantes. En fait, souvent, on se plonge dedans et on ne s'arrête plus. Il a été rédacteur un temps chez Canard PC. Il est quelqu'un qui a fait énormément de choses différentes et qui continue d'ailleurs à faire beaucoup de choses différentes. Et du coup, c'est quelqu'un qui, artistiquement, est très intéressant, je trouve, bien avant finalement de savoir et de découvrir son implication dans vos jeux, pardon, le jeu qui est déjà sorti et celui qui arrive.
Donc excuse-moi, je t'avais coupé dans ta réponse, mais je voulais pas que les gens soient complètement paumés.
Non, mais ouais.
Et je connais beaucoup moins bien son acolyte créatif, avec qui il fait de la musique depuis un moment également.
Alors, on a pris l'habitude de le citer, de le nommer aussi, mais en réalité, eux considèrent Alt-236 sur le plan musical comme vraiment le nom du groupe.
D'accord. Okay.
C'est plutôt que c'est son pseudo, okay. Al-9000. Donc, il s'occupe en fait un peu plus de l'arrangement et de la prod, quoi. Comme ils disent, Alt, il fait de la mélodie et derrière, Al s'assure que ça sonne bien, quoi.
Ok.
Mais
okay.
Bon, c'est
intéressant comme précision.
Ils sont tous les deux, mais ils ont vraiment, ça bosse ultra bien de toute façon. Alt, il est capable de pondre de la musique, des visuels à une vitesse affolante. Mais derrière, on va avoir le staccanoviste Al9000 qui va peaufiner ça pendant des mois et des mois jusqu'à ce que ça soit exactement comme il le souhaite. Mais moi, j'avais déjà un grand intérêt pour leur travail. J'étais fan de l'Asie, que je l'écoutais en travaillant. En fait, c'était déjà un peu le cas sur Shattered, mais avec Hawker, du coup, qui est aussi un artiste français et du coup, qui était à la BO. C'est que quand je vois que je commence à écouter en boucle un artiste pendant que j'écris un projet et que je le développe, je me dis, il va peut-être falloir aller lui poser la question de est-ce que ça l'intéresse.
Oui, parce que du coup, inconsciemment, tu vas écrire le projet.
Ouais, c'est ça.
Carrément.
Donc ça n'empêche pas de derrière trouver d'autres choses, mais quand c'est aussi intriqué et que tu vois que tu as une résonance, en tout cas une complicité artistique avec quelqu'un et que tu te dis mais tout ce qu'il raconte, ça m'intéresse, ça me nourrit, je le vois bien, je le sens, il met des mots sur un certain nombre de choses et il parle de sujets qui moi m'intéressent. Et la vidéo des architectes de l'impossible particulièrement, j'ai dû la regarder, je pense que c'est celle que j'ai le plus regardée de Alt. Donc elle résonne de base et je pense qu'elle a fait inconsciemment partie des motivations sur Black Shard à vraiment y aller à fond. Et on s'est rencontrés aux Intergalactiques, je crois, vraiment un peu par hasard, et on a juste un peu accroché, quoi. On a papoté pas très longtemps et il m'a dit tiens, prends mon numéro, la prochaine fois que vous faites un truc on s'en parle. J'ai gardé le numéro pendant un an et j'ai envoyé le SMS fatidique. À la base, c'était pour bosser justement sur l'une des versions antérieures de d'Hypnos. Et finalement je lui ai dit ouais, mais j'ai ça aussi à côté, il y a un labyrinthe. Et il a fait wow.
Là, il a tout lâché.
Voilà, exactement. Donc on est parti là-dessus, derrière, on enchaîne du coup sur Hypnos et on a d'autres projets non annoncés ensemble,
cool.
Un peu différents, mais voilà, c'est une chouette collaboration.
Et je trouve qu'effectivement, les univers, c'est pas étonnant en fait, effectivement, quand tu regardes le travail d'Alt de façon générale et quand tu regardes les visuels en tout cas, et même l'expérience qu'on connaît de Black Shard.
Ça marche hyper bien ensemble, clairement.
Tu comprends tout de suite le...
Oui. En fait, quand tu entends la musique avec Black Shard, tu te dis « Ouais, non, mais ça aurait pas pu être autre chose, en fait.
» Ouais, c'est un peu difficile de projeter autre chose. Après, on peut interchanger des BO sur beaucoup de trucs en disant « Ça pourrait fonctionner là-dessus. » Il y a plein de possibilités, en fait. Mais c'est vrai que quand tu es vraiment thématiquement intriqué à ce point-là, ça devient plus possible.
Après, je dis pas pour les gens qui connaissent pas le travail de Alt 236. Oui. Bon, ok, ils pourraient mettre autre chose. Et voilà. Mais c'est vrai que moi, je connaissais aussi du coup ce qu'ils faisaient. Et ça, je me suis dit, mais c'est évident que c'est...
Tu sais.
Oui.
Oui.
Vas-y. Pardon. J'ai une dernière question, mais je t'en prie, vas-y.
Ok, moi j'avais une question plutôt d'ordre technique.
Oui.
Il y a un gap visuel très évident entre Shattered et Black Shard. Et alors qu'entre guillemets, il n'y a que 3 ans entre les deux, si je dis pas de bêtises. Comment justement s'est fait ce changement graphique? Est-ce que vous avez dû apprivoiser de nouvelles techno? Est-ce que vous avez changé votre manière de faire?
Alors on était sur Unreal 4, du coup Unreal Engine 4 pour Shattered, Et il y a tout
un tas de jeux, okay.
Ouais, et il y a tout un tas d'aspects techniques où on a vraiment galéré en fait à fond. Et il y a des choses qu'on avait prévu de faire, par exemple des transformations d'environnement en fonction de quel boss ça va disparaître, etc. Qu'on a peu ou pas pu faire, précisément parce qu'on avait beaucoup de limitations techniques et pas les compétences aussi pour aller là-dessus. Et quand Unreal 5 du coup est sorti, on a fait oh, c'est ça qu'il nous aurait fallu. En tout cas, vraiment sur ces aspects-là, sur le côté transformation, les calques, en fait, c'est un système de calques sur Unreal 5 qui permet d'accumuler en fait des couches de beaucoup de choses, mais notamment d'habillage visuel. Donc, on est un peu parti là-dessus, et c'est vrai que la manière dont ce moteur gère la lumière,
ouais, peut... j'allais dire la gestion des éclairages dans Black Shard, c'est très marquant, quoi.
Et bah, c'est un peu tout repose un peu là-dessus, quoi, et sur l'épure aussi de ces surfaces-là. Ouais. J'avais dit qu'on, enfin, j'avais vraiment prévu de limiter la gamme chromatique, à, voilà, de, noir, du blanc, du noir,
noir blanc,
un peu d'or, et justement ouais. de jouer sur le fait que quand couleur il y aurait, ce serait étrange et qu'il y aurait quelque chose. Voilà, thématiquement autour de ça. Donc ça a aussi permis de se faire la main, quoi. Donc pour aller chercher des choses un peu plus organiques et un peu plus variées sur Hypnose, on aura, je pense, plus de variété, un peu de biome et des choses qui tirent un petit peu plus sur le merveilleux, sur le fantastique et aussi sur l'horreur un peu plus pure, du coup. Ce que Black Shard finalement ne fait pas plus que ça.
Merci.
Il y a un trigger warning, il y a quelque chose un peu craspec dans Hypnose, mais bon. Voilà.
Ok, ok.
Mais très bien.
Non, bah après, il y a juste.
Eh ben,
l'usage.
C'était une bonne émission.
Non, mais il y a l'usage, on fait de la veille technique et puis on se familiarise. Okay. Moi, à la base, je suis juste concept artiste, en fait, de formation, si tu veux. Mm-hmm. Donc, c'est sur Shattered, c'est pas du tout moi qui faisais le level art. Et puis, au fur et à mesure, j'ai commencé à mettre les mains dedans et puis j'ai commencé à y prendre goût. Et forcément, quand un truc te plaît, bah, tu te casses un peu la tête pour essayer de faire des trucs chouettes. Donc voilà, c'est le gap est un petit peu de compétences qui ont été prises, d'affirmation créative hein, aussi, et puis quand même l'outil qui est assez formidable, qui ne solutionne pas tout, mais qui permet de faire des trucs chouettes pour les indés notamment. Donc,
autre ajout dans Hypnose, en plus de l'aspect potentiellement horreur, il y a aussi en fait, des personnages non-joueurs, d'autres personnages qu'on va rencontrer, avec lesquels on va discuter, et qui vont avoir en plus un graphisme assez différent du reste. Comment s'est fait ce choix, artistiquement parlant, ou peut-être d'un point de vue mécanique ?
Alors... Il y avait une évolution, en gros, sur Black Shard, on croise aussi des entités sous la forme de Splash Art, mais j'étais beaucoup plus dans une logique iconographique, en fait, d'entités, de divinités, de choses comme ça. Et là, on s'est dit, on va un peu plus se recentrer sur le fait de raconter une histoire, même si il y aura toujours cet aspect un peu plus abstrait autour, on va dire, voilà. C'est quand même, il y a de l'indicible là-dedans, donc il fallait garder... des choses plus mystérieuses, mais on s'est dit on va quand même avoir un roster de personnages qui soit un peu plus dense, un peu plus humain aussi, ou en tout cas avec lequel on puisse plus facilement
interagir
dans lequel on puisse se projeter.
C'est plus, il y a un rapport qui est pas de 1 à 1, on va dire.
Et puis le personnage pour le coup de Black Shard était complètement effacé. C'était le but, c'était qu'il y ait une feuille de papier entre le joueur et et l'avatar. Là pour le coup, c'est un personnage écrit qui a un background. Donc voilà, et c'est son histoire principalement qu'on raconte et celle des personnages qui gravitent autour, même si le joueur encore une fois a une présence. Voilà. Mais donc pourquoi ? Parce que on s'est dit on est allé vraiment dans un extrême. On va essayer de repartir sur quelque chose d'un peu plus équilibré. Aussi pour ne serait-ce qu'avoir un jeu un peu plus accessible, je pense, parce que ça, j'ai conscience que ça peut quand même rebuter les gens d'être dans des trucs complètement perchés.
Ouais.
Voilà, ça reste un jeu de niche quand même, Black Shard. Donc là, on s'est dit, on va essayer d'élargir un peu le public et d'aller chercher les gens par une histoire un peu plus accessible et ensuite les balancer largement dans des trucs de cosmogonie étrange.
D'accord. Et justement, ce choix d'avoir fait une représentation qui est plutôt propre au genre du visual novel, c'est-à-dire avec une représentation en 2D et on va dire des choix de dialogue en dessous, et pas les intégrer directement dans le...
Dans des cinématiques ou dans des choses.
Soit dans des cinématiques, soit directement dans l'environnement 3D, c'est un choix qui est...
Il y a les deux. Il y a déjà, parce qu'il y a un certain nombre de ces personnages qui sont modélisés en 3D, qui existent, voilà, ne serait-ce que pour des bêtes questions de repères, tu vois.
Oui, bien sûr. Voilà.
Et après, c'est juste que depuis le début, la 2D et les personnages comme ça, avec cette esthétique, ça fait partie aussi de l'identité du studio, et on voulait pas l'abandonner complètement pour de la 3D. On avait un peu envie de garder ça. Et de le raffiner au fil du temps, d'améliorer un peu le système. Et puis moi, je suis un grand fan du travail de Supergiant, hein, quand même. Et du coup, les voir ne cesser de s'améliorer.
Ça se sent un peu.
Voilà. Et alors, pour le coup, un de mes préférés de ce point de vue-là, même si c'est pas le plus abouti dans ce système et qu'ils ont vraiment trouvé. Exactement.
Oui. Bon, donc du coup, j'espère que tu as encore 2-3 heures devant toi, parce qu'il va pas te lâcher.
J'adore Payeur, quel jeu incroyable.
Il est merveilleux. Je sais qu'il ne faut pas le dire
et que ça veut rien dire. Mais sous-côté, putain.
Je suis d'accord. Moi, j'essaye de le vendre à tous les gens que je croise. Mais vous avez joué à Payeur ? Il faut jouer à Payeur.
C'est exactement ça.
Voilà. Parce qu'effectivement, du coup, on arrive vraiment au bout en fait, de cette émission pour maintenant. Et du coup, il reste énormément de questions, parce que tes réponses en appellent beaucoup d'autres, sont très intéressantes, enfin c'est vraiment... mais en même temps, ça donne tellement envie finalement de s'intéresser aussi au jeu, etc. Enfin, et du coup, là j'ai envie de repartir un peu sur du concret, enfin on va finir un petit peu sur quelque chose de manière pragmatique. Vous envisagez quoi comme là pour l'instant au niveau du calendrier pour vous? Je crois que sur la page Steam c'est indiqué 2026.
Ouais, on est en train de peaufiner la démo pour le NeoFest.
Ok, 8 février.
Ouais, exactement, donc le 23.
Ah, c'est donc
bientôt.
Tout de suite là.
Exactement. Et pour changer, on va encore faire une démo de 2h30 parce que...
Parce que Black Shark, pareil, on va faire une petite démo. Et j'ai fait, mais en fait...
ça fait 3 semaines que je suis dessus.
En fait, ils ont cheap le jeu et ils n'ont pas fait
gaffe. Non, mais voilà. Je me mets pas trop la pression là-dessus. Là aussi, on teste. Hein, on se dit, qu'est-ce que vous en pensez? C'est assez long, là? On en met plus ou comment ça se passe? Voilà. Mais bon, ça va être un peu différent. Mais donc, on prépare ça. Et a priori, on est parti pour une sortie en mai.
Ok, vraiment, voilà. Bientôt.
D'accord.
Très bientôt. Et vous êtes sur le même modèle économique, j'ai presque envie de dire, par rapport à Black Shard, le même scope, le même, qui est aujourd'hui est à 10 euros.
Qui est Black Shard est à 10 euros, absolument. J'ai eu un élan gauchiste terrible à ce moment-là, très honnêtement. Je me suis dit, mais en fait, c'est nul, les jeux trop chers. Est-ce qu'on pourrait pas faire un truc... Alors je me suis fait engueuler.
Est-ce qu'on pourrait pas abolir l'argent?
Non mais voilà. Non, mais
en vrai, alors, une chose à la fois. D'abord on va enlever pas cher.
Avec beaucoup d'affection, mais je me suis fait un peu engueuler quand j'ai dit on va le lancer en gros à 10 euros, même un petit peu moins Black Shard. Parce que je me dis oui mais tu te rends compte quand les jeux sont en dessous de tel prix, en fait les gens considèrent que c'est pas ouf quoi. Mm-hmm. Ou que ça vaut pas le coup. Attends, on y va quand même, on teste. Et le nombre de gens qui ont dit j'ai pas de thunes en ce moment, mais du coup je l'ai acheté.
Parce que je fais l'effort en fait. À ce prix-là, il y a un prix psychologique en fait.
Exactement. Ouais, et y avait le côté ça vaudrait tellement plus. Mais c'est pas le sujet en fait. Le truc c'est qu'il y a plein de gens qui ont pu accéder à ce truc-là et qui en ont. Les commentaires, c'est mon pain quotidien sur ce jeu-là pour le coup. Même si je pense qu'il a encore la possibilité de toucher plus de gens, mais. Les gens, leurs commentaires, c'est de la poésie, en fait. Il y a des gens, ils écrivent juste des poèmes, quoi.
C'est vrai que je trouvais que la vibe était vraiment très différente des commentaires que j'avais vus, notamment sur Shatter.
Mais complètement.
Où les commentaires sur Shatter étaient beaucoup plus
mécaniques.
Ils sont plus mécaniques, techniques, Souls-like, etc.
Oui, machin. Ce qui est normal.
C'est pas le même public, du coup.
C'est normal.
Tu te mets dans tel genre, les gens attendent un standard aussi.
C'est normal. Et là, en fait, c'est comme si tu proposais... Enfin... entre guillemets, c'est même pas écrit quelque part quand tu tombes sur, sur Black Shard que c'est censé être un walking sim ou ce genre de choses. C'est même pas censé. Tu sais pas trop sur quoi tu vas tomber. En général, tu tombes sur les, tu tombes sur des screens ou tu tombes, pardon, sur des, sur le trailer ou sur le côté très brutaliste. Tu vas te dire, je veux voir ce que c'est, quoi. Ouais, et à 10 balles, c'est vrai que
tu peux dire. Tu dis, je tente.
Voilà, c'est ça.
Bien sûr.
Donc, mais c'est vrai que ce sera, je pense qu'on sera un tout petit peu plus haut sur Hypnose, mais juste parce que fondamentalement il nous a quand même coûté un peu plus cher.
Ouais.
Et
ouais,
que j'aimerais bien pouvoir au moins prendre une personne de plus après, quoi.
Okay.
Donc à un moment donné, il faut que je, on va dire, fasse un petit peu la part des choses là-dedans.
Bien sûr. Ce qui serait cool, c'est que les deux se...
Ouais.
S'auto-snowball, que la sortie d'Hypnose relance aussi l'intérêt sur Black Shard.
Alors,
et inversement,
que, oui, ouais. Mais je pense qu'il va y avoir ça, mais ouais, le bundle.
ça marche toujours très bien.
Et Black Shard arrive sur console quand même.
Ah, ok.
Et on finit sur une information très intéressante.
Mais ouais, du coup, sans relancer un sujet, parce qu'il va falloir qu'on quitte les locaux bientôt, mais. Le sujet du prix d'un jeu est un vaste sujet et je partage totalement cette vision que les objets culturels devraient être accessibles à toutes et tous et que ce serait bien que ça coûte pas très cher et que ce soit, en tout cas voilà, que quand on n'a pas beaucoup de moyens on puisse quand même en profiter, etc. Je partage totalement cette philosophie, mais en même temps il y avait eu ce débat quand justement Silksong est sorti et qu'il était pas cher.
J'allais
et...
dire Team Thierry.
Team
Thierry a déjà tranché le truc, c'est 20 balles, pas un centime de plus. C'est comme ça.
En fait, le truc, c'est qu'il y a. Alors, c'est un coup à lancer un sujet, donc je vais essayer de le garder très
simple. Je savais.
C'est pas gentil de faire ça à 22h02. Quoi.
En fait, je pense qu'il y a. Il y avait un truc à un moment donné dans le CNC, notamment, c'était de financer des projets. À visée purement créative. Donc plutôt justement des projets à destination d'espaces culturels qui n'ont pas vocation à devenir des produits commerciaux, voilà, exactement. Et ça, en fait, tant que la plupart des studios de jeux vidéo français seront dans une logique de je vais monter une boîte très classique et de toute façon j'ai pas tellement d'alternatives et donc je suis obligé d'atteindre des seuils de rentabilité et finalement c'est grossir ou mourir, c'est un peu ça le truc. Ça va être compliqué d'aller un peu sur ce terrain-là. Alors que si jamais l'intermittence du spectacle dans le milieu, enfin voilà, vous savez où je vais, mais en gros c'est ça, c'est si on arrive à trouver des modes de fonctionnement et de financement un peu différents, on arrivera à faire beaucoup plus de trucs et on sera moins contraint par cette logique de toujours plus et comme enjeu, tu vois, parce que si t'as 4-5 personnes qui sont capables, en ayant des salaires globalement stables, de continuer à produire des choses super chouettes,
oui,
c'est bon.
Bien sûr, et c'est le, on va dire, le sens des financements du CNC notamment, et on en avait déjà parlé effectivement quand ils avaient été reçus à l'Assemblée nationale. On avait fait un petit truc là-dessus. Ils en avaient reparlé quand effectivement ils font partie des travaux actuellement du Sénat sur plein de choses. Enfin, bref, c'est.
Faut
une deuxième édition.
Voilà, ça suffit.
Qu'est-ce que tu fais jeudi prochain?
Non. Je suis libre.
Non, ça suffit. De toute façon, je savais que cette émission elle finira par du gauchisme, évidemment.
Voilà, mais de toute façon, ils ne nous déloseront jamais.
Hein. Non, mais voilà quoi. Donc, merci beaucoup, Maxime. Ouais,
merci énormément. Merci pour l'invitation. Intéressant.
Comme chaque semaine, on remercie le collectif Presse F5 qui héberge le podcast du nerf de la game. On remercie Radio Canu pour l'accès au studio. On vous dit que bientôt il y aura un blind test quiz au Troquet Taquin. Mais enfin, la semaine
24.
Prochaine. Le 24, voilà. Et la semaine prochaine, Maxim sera là. Parce qu'il n'y a pas le choix. On va l'enfermer.
On n'a pas terminé.
Il y a des trucs à dire. Et voilà.
Et en mot de la fin, ajoutez Hypnose à votre wishlist sur Steam.
Oui, c'est important.
Et essayez la démo lors du.
Et achetez Black Shard. Ça vous dit voilà.
Oui.
C'est ça.
Ouais, en fait, donnez toute votre thune.
Voilà.
Des bisous.
Merci.
Salut,
à la
semaine prochaine. Salut.